Comme tous les lundis, on va retrouver notre ami Daniel Haber et aujourd'hui, il va être question dans les conversations avec Daniel Haber des opérations qui ont repris et entre bien sûr les États-Unis et l'Iran. Les commentateurs parlent d'un MOU, à savoir ce memorandum, vous savez, dont on parle beaucoup, qui a été terminé par parle d'un MOU terminé et Donald Trump aussi, que voulez-vous que je vous dise? C'est ce qui est noté, je le lis. Et voici donc ces conversations avec Daniel Haber, qui est au micro du pauvre Blaise Van der Linden, qui a perdu sa voix et à qui on souhaite un prompt rétablissement.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise, et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va évidemment parler des négociations entre les États-Unis et l'Iran, et évidemment en point d'échoppement Israël. Les opérations ont repris, c'est le 7e jour d'affilée que les États-Unis attaquent l'Iran. Les commentateurs parlent d'un MOU, le Memorial of Understanding. Il est terminé, selon les commentateurs et Donald Trump. Quel est votre point de vue?
Bah écoutez, vous dites qu'on est en train de négocier, on est plutôt en train de se faire la guerre. Moi, ce qui me frappe, évidemment, au début, je pensais que c'était un petit peu comme les opérations précédentes, une sorte de poursuite de la négociation avec un petit peu de soutien militaire pour bien marquer les positions. Mais là, ce qui est surprenant, c'est la rapidité de l'escalade. C'est très difficile aujourd'hui d'imaginer une négociation. On est à une véritable reprise de conflit parce que les échanges de tirs entre les deux ressemblent plutôt à ce qui se passait au mois de mars, c'est-à-dire la guerre, hein, la vraie guerre, les 40 jours de guerre, c'était un peu ça, avec des répliques iraniennes très dures sur les pays du Golfe. Donc, on a vraiment l'impression que oui, ce MOU n'est pas respecté. Bon, on sait qu'il n'était pas contraignant, on sait qu'il était vague, qu'il y avait de la place pour l'interprétation, mais on pensait qu'on avait, en gros, un mois pour y voir plus clair, et donc les Iraniens ont choisi de briser le MOU.
Justement, Daniel, pourquoi l'Iran a-t-il pris l'initiative de sortir de ce MOU?
Alors, je ne sais pas si sortent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils vont obliger les Américains à revenir dans la négociation, mais aux conditions iraniennes. Mais enfin, c'est la question centrale. Pourquoi est-ce que les Iraniens ont fait ce calcul que, au fond, je rappelle que le MOU donnait beaucoup, beaucoup d'avantages à l'Iran, au point qu'on disait que l'Amérique avait été humiliée, que l'Iran avait gagné. Tout se passait au fond comme si les Américains disaient « Ok, vous avez réussi un bon coup, vous avez résisté à mes opérations, vous avez pris en otage le détroit d'Ormuz, je suis prêt à payer une rançon ». Et cette rançon, les Iraniens l'avaient fixée à « Je veux de l'argent, mon argent », ce qu'on appelle les avoirs iraniens, qui sont bloqués un peu partout dans le monde, mais notamment au Qatar. Je veux une partie de cet argent tout de suite, quelques milliards. Je veux envisager plus tard, à long terme, après un mois, non pas de rétablir un péage, mais on va parler de service fees, hein, de paiement pour des services rendus. Et puis, ils essayaient aussi de sauver le Hezbollah en imposant à Israël d'arrêter ses opérations au sud de Liban. Et Trump était assez d'accord pour pousser Israël à réduire ses activités au sud du Liban, au point que ça avait créé une tension entre Israël et les Américains. Donc les Iraniens gagnaient beaucoup. Et donc votre question, c'est pourquoi ils ont fait ça? Je vois trois raisons. La première, c'est, il faut jamais l'oublier, c'est l'hubris, c'est-à-dire l'orgueil démesuré. Et il s'est passé au fond deux choses. D'une part, les dirigeants iraniens sont sur un petit nuage. Ils ont obtenu dans le MOU des avantages considérables, la consolidation de leur régime, l'espoir de retrouver des sommes importantes, y compris la levée de toutes les sanctions, la possibilité de vendre autant de pétrole qu'ils veulent sur le marché mondial, donc à des bons prix, donc de s'enrichir. Et puis en plus, ils avaient le sentiment qu'ils étaient soutenus par le monde entier et que c'était Israël et les Américains qui étaient isolés. Et ils n'avaient pas tort de le penser parce que effectivement, l'Iran est soutenu à la fois par deux grandes puissances, la Russie et la Chine. Ils sont soutenus par une grande partie du Sud global, dont je rappelle qu'une grande partie du Sud global, 57 pays sont des pays musulmans. Et ils sont même soutenus par une partie de l'opinion occidentale, comme d'ailleurs depuis le 7 octobre, par les partis, disons, islamo-gauchistes ou wokistes aux États-Unis, par certains grands médias dits de référence mais très à gauche, par beaucoup d'intellectuels occidentaux qui pensent contre eux-mêmes, qui pensent contre leurs propres intérêts, et puis par ces milliers ou millions d'idiots utiles qui pensent que l'Iran est un pays qui se défend devant un adversaire plus puissant et qui gagne et qui trouve que la victime mérite de gagner. Bref, tout ça les a peut-être incités à essayer de profiter de cette dynamique positive pour obtenir plus. Et justement, ce plus, c'est ce détroit d'Ormuz. Tout le monde savait qu'il pouvait le fermer à tout moment, depuis très longtemps, on le savait. Mais là, il découvre que c'est encore plus extraordinaire parce que le monde s'affole. Dès que le détroit c'est terminé, on parle de crise pétrolière, on a parlé ensuite de crise économique mondiale et on a vu la Chine s'inquiéter, même si elle savait gérer à court terme le manque de pétrole parce qu'ils avaient des réserves, ils s'inquiétaient à long terme. Et donc les Iraniens se sont dit, ben, c'est le moment peut-être d'aller encore plus loin et de s'approprier le détroit. Parce que c'est ça l'idée. Ce détroit n'est pas un détroit où je peux exercer un certain contrôle. Non. C'est mon détroit. Et en plus, on constate à l'intérieur de la gouvernance iranienne beaucoup de divergences. Hein. Il y a beaucoup de centres de pouvoir. Il y a les gardiens de la révolution avec deux groupes, ceux qui sont des idéologues radicalisés et qui veulent des jusqu'au boutistes, d'autres qui sont prêts à faire des compromis. Et c'est avec cela que les Américains parlaient en disant, si on leur donne un peu d'argent, ben ils vont le prendre. Et puis il y a d'autres centres de pouvoir comme le Parlement, avec le président du Parlement, Ghalibaf, et puis surtout le président Pezeshkian et le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, qui, ayant beaucoup de rapports quotidiens avec les Occidentaux, on a pu penser qu'on pouvait arriver avec un accord. Donc, globalement, on a fait comme si l'Iran était fort et lui s'est senti fort. Et il faut jamais oublier qu'en réalité, l'Iran a beaucoup beaucoup été affaibli, que sa gouvernance a été éliminée, qu'ils ont subi des dégâts considérables et qu'en fait, ils sont en mode survie, ils sont en mode panique, ils sont en mode de stress et que je pense que les bons joueurs d'échecs se sont transformés en militaires bornés et que les bons experts, les joueurs intelligents parmi eux, ne sont pas écoutés. Et donc, je pense qu'ils sont en train de faire un mauvais calcul pour conclure. Hein. Voilà, à votre question, il faut un mauvais calcul en rompant le MOU.
Alors, Daniel, comment est-ce qu'on peut estimer que ce conflit va évoluer?
Écoutez, on a eu l'espoir qu'avec ce MOU, on avait une voie de sortie qui était en gros, on va payer beaucoup. Ça, c'était l'idée de Trump, ce fameux faiseur de deal. Je vais donner beaucoup d'argent, je vais noyer l'Iran sous une tonne d'argent et je vais leur ouvrir les bras en disant retrouver le confort de l'ordre mondial. Vous savez, c'est une tradition qui remonte à avant la Deuxième Guerre mondiale. Les démocraties commencent toujours par tenter d'apaiser les excités ou les États dictatoriaux et ambitieux en pensant qu'en leur donnant des satisfactions, on pouvait les calmer. Et au fond, Trump se disait aussi, j'ai raté mon coup le 28 février. Bon, bah je paye pour ça. Je suis lucide et je suis prêt à payer. Et finalement, en pensant ça, on faisait comme si l'Iran était un État comme les autres. Et d'ailleurs, dans les commentaires sur les chaînes d'information, on a souvent l'impression qu'on traite l'Iran comme un État comme un autre, un État souverain, qui a le droit de s'armer comme il entend, ses affaires intérieures ne regardent que lui, etc. Et on oublie une seule chose, que c'est pas un État comme un autre. C'est ce qu'on appelle un État totalitaire. Alors, on en a déjà parlé, je pense qu'il faudra en reparler. Les États totalitaires au XXe siècle, il y en a eu trois. Il y a eu l'Allemagne nazie, il y a eu le stalinisme, le bolchevisme stalinien, il y a eu le fascisme japonais. Et pour les vaincre, il a fallu, pour certains, 5 ans de guerre et 70 millions de morts. Et pour vaincre le bolchevisme stalinien, il a fallu et la mort de Staline et 40 ans de guerre froide. Et donc, il est clair aujourd'hui que il faut retrouver le jugement qu'il faut avoir sur l'Iran. C'est un pays totalitaire. C'est la pointe avancée d'un mouvement totalitaire qui s'appelle l'islamisme, qui rejette l'ordre mondial. Le seul ordre mondial pour l'islamisme, c'est l'ordre islamiste. Et le seul pays qui a compris, c'est Israël. Et comme il a compris, ben c'est le pays qu'on critique, parce que celui qui dit la vérité, il sera exécuté. Voilà, ça c'est la situation actuelle, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui est en train de remettre les pendules à l'heure, et c'est ce qu'on verra dans les semaines qui viennent.
On aura évidemment l'occasion d'en parler et j'espère retrouver ma voix, Daniel Haber. Le changement de température à Bruxelles nous fait des tours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine, au revoir.